Alors, on a terminé les 100 essentiels. J'avais le choix. Et puis, j'ai décidé de continuer un petit peu les 100 essentiels. Parce qu'on n'a pas parlé du ciel. J'aimerais ça qu'on parle du ciel. Le ciel sur terre. Qu'est-ce qui nous attend? Pendant 20 chapitres, si on regarde l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse, 20 chapitres, de quoi on parle? C'est pas rose, hein? Des sceaux, des trompettes de malheur, le diable, Satan, le grand dragon, le serpent ancien, la bête, le faux prophète, sept anges qui proclament les jugements divins, sept coupes, sept plaies, Babylone, hein, la puissance matérielle ou antichrétienne, la grande prostituée avec son pouvoir de séduction sur la chair, sur l'esprit, les faux Christ, les fausses doctrines et toutes ces choses-là. Alors, c'est un portrait, on lit l'Apocalypse, et c'est un portrait assez effrayant, n'est-ce pas? Vous aimez l'Apocalypse? Moi, j'aimais ça. Les premières études que je faisais quand j'étais jeune chrétien, là, hey, l'Apocalypse, c'était... Mais ça décrit tous les malheurs, toutes les malédictions qui vont s'abattre sur le monde, qui ont décidé de suivre le Dieu de ce siècle. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, le monde est sous l'empire du diable, et on voit toutes les conséquences que ça a. Toute la persécution aussi, la haine contre l'Église, contre les chrétiens, contre les croyants, contre Jésus. Et, heureusement, le triomphe de Jésus. Jésus a triomphé à la croix et jusqu'à la victoire finale, jusqu'à son retour. Jésus va revenir, n'est-ce pas? On oublie ça, on est tellement pris dans le quotidien qu'on oublie que Jésus revient bientôt, hein? Et qu'il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'aimerais ça ce matin qu'on puisse regarder un petit peu de quoi ça va avoir l'air, la vie avec Dieu pour l'éternité. D'accord? On va détourner nos yeux du terrestre un petit peu, avec tous les malheurs qui sont là, et on va regarder qu'est-ce qui s'en vient, de quoi ça va avoir l'air. Hein? Alors, on saute 20 chapitres de malheur, et on termine avec deux chapitres, on peut dire, de notre héritage, de ce qui s'en vient. La gloire qui s'en vient. Est-ce qu'il y en a qui trouvent la vie dure? On est peut-être dans le pays le plus paisible au monde, le plus choyé, le plus béni au monde. Et on trouve la vie dure, imaginez. Hein? Et c'est pour un chrétien en particulier, de vivre dans ce monde, c'est difficile. On a raison de trouver la vie dure. Je pense que ça marche plus. La batterie, probablement. C'est Pierre qui dit que tous ceux qui vont vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui croient à la vie éternelle, vont trouver ça dur de vivre sur cette terre. Hein? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y avait une dame qui, je ne me souviens pas dans quel pays non plus, juste entendu ça, que la dame était musulmane, elle s'est convertie, puis elle voulait se marier à un chrétien. Et puis la sentence c'était qu'elle allait être pendue à cause de sa foi. À quel endroit? Elle est enceinte aussi. Au Mali? Au Soudan. Alors, ouais, il y a des endroits dans le monde où être chrétien, ça coûte quelque chose. On paie le prix, n'est-ce pas? Et on pense qu'ici, on est libre ou on est, hey boy, on a tout un combat. On n'a pas le fusil sur la tempe, là. Mais il y a plein d'autres trucs que le diable a développés pour nous empêcher de suivre le Seigneur. Alors, il y a des persécution, je dirais, morale, hein? Des choses qui étouffent la parole de Dieu, des choses qui empêchent la parole de Dieu de produire du fruit dans nos vies. Et on a lutté, on a tout un combat là-dedans. Alors, la vie sur terre, c'est pas le ciel, n'est-ce pas? On est d'accord? Et si notre espérance est dans ce monde présent, on est les plus malheureux de tous les hommes, comme Paul le dit. Hein? Mais, Paul dit aussi, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul dit, détourne tes yeux de ce que tu vis sur terre présentement, là. Et je pense qu'il pouvait parler en connaissance de cause. Mais il dit ça, là, ce que tu ressens présentement à comparer à ce qui s'en vient, la gloire à venir qui va être révélée pour nous. Ça n'a aucune, hein, c'est incomparable, ça n'a aucune mesure. Alors, si on réussit ce matin à détourner nos yeux de ces souffrances du temps présent, on va pouvoir, je pense, retrouver notre espérance. Alors, c'est le but de mon message ce matin. Alors, est-ce que ça vaut la peine de ne pas lâcher Dieu, de ne pas lâcher le Seigneur, de ne pas lâcher l'Église? Ça vaut la peine? J'espère qu'on va s'ouvrir les yeux et on va voir un peu plus loin que ce qu'on vit présentement. Comment on peut s'imaginer, comment est-ce qu'on peut se représenter la vie éternelle avec Dieu? Hein? Toutes sortes d'images peut-être dans votre tête? Comment ça va être la vie? On va vivre avec Dieu, là. On va le voir de nos yeux, on va le toucher, on va le... Hein? Et on ne peut que s'imaginer ce que ça va être. Il y a des représentations matérielles de la réalité qui est invisible. C'est drôle parce qu'on pense que nous, ce qui est là, c'est la réalité. Mais ce ne sont que des images de la réalité qui est à venir en Jésus-Christ. Je dirais un mot pour qualifier ce qui s'en vient, et le mot c'est nouveau. Ça va être nouveau, ça va être du jamais vu. Ça va être quelque chose que aujourd'hui on peut même pas toucher, se représenter. Alors, par exemple, il dit que notre corps, ce que tu sèmes, alors notre corps, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Comment est-ce que le petit grain de blé qui est dans le sable, dans la noirceur et dans la... Hein? Il peut s'imaginer qu'un jour, il va devenir un épi de maïs ou un épi de blé. On est dans cette même situation-là. Notre corps actuel, hein, il va être planté dans la terre et puis il va sortir quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Une transformation de notre être. Qui a hâte d'être transformé, hein, dans ce corps merveilleux, incomparable, hein, on peut pas le comparer, comme le grain de sable, pas de sable, mais un grain de blé, qui va devenir un épi de blé. Alors, juste, on peut juste s'imaginer un petit peu, mais nouveau, hein? Ça va être nouveau, quelque chose complètement différent de ce qu'on a présentement. Ensuite de ça, la création, hein? La création sera libérée de la servitude, de la corruption, la pollution, etc., pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est comme Paul dit, oui, notre corps va être transformé, mais la planète va être transformée, l'univers va être transformé dans quelque chose de complètement différent, de quelque chose de nouveau. Et finalement, un nouveau ciel, une nouvelle terre qui va descendre du ciel, hein, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse séparée pour son époux. Alors, nouveau. Tout va être nouveau. Et j'aimerais qu'on regarde juste trois images ou trois portraits avec lesquels on peut se représenter ce que sera la vie éternelle avec Dieu. Nous allons vivre intimement avec Dieu comme un mari vit avec son épouse, comme un papa vit avec son fils ou avec sa fille. On va avoir cette relation-là intime avec Dieu. Wow! Je pense que ça nous dépasse, là. Si on pouvait saisir ça 2 minutes, on serait les plus joyeux de tous les hommes. Hein? Relation, on va faire, il y a un autre verset qui dit, et nous allons, être rendus participants de la nature divine. On sera pas Dieu, mais on va participer à la nature de Dieu. Dieu, il sera plus juste trois, on va être partie de cette trinité-là aussi intimement qu'un époux avec son épouse, qu'un père avec son fils. Wow! Hein? Alors, comment est-ce qu'on peut concevoir ce paradis-là, cette vie avec Dieu? La première image, c'est une cité, n'est-ce pas? Une cité. Wow! Pas de wow! La vie éternelle avec Dieu, comme une cité, comme une ville. Je vois pas beaucoup de réactions. Et je vous comprends. Hein? Et la... Il va avoir un bon maire. Et la cité, la ville, ça a mauvaise réputation, n'est-ce pas? Ça a tout un arrière-plan, ça, ce mot-là, cité. C'était quoi la première cité? Babel! C'est Babel! Alors, wow! Non, pas de voir. Ça serait quoi? Wesh! Hein? Mais la dernière ville, ça s'appelle comment? L'avant, juste avant. Je veux dire, la cité terrestre, on parle des images. Babylone. Babylone, la grande prostituée avec toutes les séductions pour entraîner la terre dans une guerre, un combat final contre Dieu. La puissance matérielle, la puissance de séduction. Mais je vais pas renchérir là-dessus, pas ça que je veux. Mais juste pour dire que quand on parle de cité, on parle de quelque chose qui était à l'opposé. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on parle d'une cité qui est complètement à l'opposé de Babel, de Babylone. La Nouvelle Jérusalem, ça va être quelque chose de complètement contraire, à l'opposé contraire de ce que c'est, de ce que c'était, que ces cités-là. Ensuite, il dit que, encore curieusement, le dernier verset, là, il dit que la ville, la Nouvelle Jérusalem, est préparée comme une épouse. Une ville qui se transforme tout d'un coup en épouse. On est vraiment dans le langage figuratif, n'est-ce pas? C'est plus agréable de penser que la vie éternelle avec Dieu va ressembler à une relation avec Dieu, une relation d'épouse à époux, n'est-ce pas? Alors, première vision. Un mot qui est difficile à prononcer pour les Québécois. Le tabernacle. Hein? Une image de la vie éternelle avec Dieu, c'est le tabernacle. Et on va aujourd'hui la tente ou la demeure parce que à cause de mes racines. l'attente de Dieu. C'est quoi? C'est quoi? Quelle image qu'on a de ça? Hein? Quelqu'un a une idée?
Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant dans ce monde-là?
OK, peut-être lever la main ou parler plus fort que je puisse vous voir. Oui, l'image du tabernacle ou de la tente. Oui? Oui, il y avait cet aspect-là. C'est ça, il y avait un respect où c'était l'endroit où Dieu se révélait, hein, demeurait avec son peuple dans l'Ancien Testament. Alors, c'était toute une image pour Jean et pour les personnes qui étaient là. Excusez. Ah, là. C'est le même mot qui est employé dans l'Évangile de Jean. Jean emploie le même mot dans son Évangile. Il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est le même mot que la demeure. Alors, Jésus était la demeure de Dieu, était la présence de Dieu. Hein? Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus était l'image de Dieu, était le portrait de Dieu. Et quand on regarde Jésus, on a le portrait de ce qu'est Dieu. Alors, une tente, une demeure, c'est... Et regardez dans les psaumes. Psaume 23 qu'on connaît bien, c'est quoi l'aspiration de David? Je vais habiter dans la maison de l'Éternel. C'est ça son... Il était roi, il était riche, il avait la gloire, il avait tout. Puis c'est quoi qu'il désirait? Habiter dans la maison de l'Éternel. Un peu plus loin, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Alors, ce mot-là était riche pour les Hébreux, pour les Juifs. C'était la présence de Dieu, la présence intime de Dieu. Et dans Exode, Dieu dit, je me rencontrerai avec vous et je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation. J'habiterai au milieu d'eux pour habiter au milieu d'eux. Alors, le peuple était rassuré, le peuple était vivait, si on peut dire, dans la présence de Dieu, et ça, c'était une image, c'était un symbole de ce qui allait arriver à la perfection à la fin des temps. Maintenant, Jésus est venu dans les évangiles, il est venu sur la terre, il y a eu la tente, le tabernacle dans l'Ancien Testament, Jésus dans les évangiles, et dans les épîtres, qu'est-ce qu'on lit? Où est le temple? Le temple de Jérusalem a été détruit en 70, après Jésus-Christ, plus de temple. Jésus est mort. Dieu n'habite plus sur la terre? Oui. Robert dit que c'est lui. Oh, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Fait que c'est pas juste en nous, hein? Dans Éphésiens, il parle que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Hey, mes frères, mes sœurs, on peut-tu dire un wow? Que Dieu est ici, là, et que nous sommes le Saint des Saints, là, c'est une boîte carrée, et puis c'est là que Dieu se rencontrait avec son peuple. Puis il dit que tout ça, maintenant, c'est une image de ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Église, c'est le temple de Dieu. Alors, faisons attention comment qu'on en parle, hein? Faisons attention comment qu'on considère l'Église de Jésus-Christ. C'est le temple de Dieu, hein? C'est la prunelle de ses yeux. Et c'est important, ce qu'il y a de plus important sur terre, c'est ce lieu ici, ce matin, où on est rassemblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Mon frère, ma sœur, vous êtes le temple de Dieu et ensemble, nous sommes le temple de Dieu, le temple de Dieu vivant. Toute une image. Et bientôt, c'est pas terminé, hein? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est que le monde comme on le connaît présentement va être, je sais pas de mots pour exprimer ça, va être fondu ensemble avec le monde spirituel. Il y aura plus de différence entre le matériel et le spirituel. Ça va être fondu ensemble. Et là, on va pouvoir voir Dieu de nos propres yeux. Hein? On va goûter, on va ressentir, on va entendre Dieu, non plus par la foi. Toutes ces choses-là, là, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, on le croit et on le vit par la foi. Mais là, non, ça va être par la vue, ça va être par le toucher, ça va être par... je ne sais pas ce qu'on va être, mais avec ça, on va voir Dieu face à face et on ne mourra pas. On va revêtir un domicile céleste dans lequel on va pouvoir entrer en communion intime avec Dieu. Hein? Il dit au verset 7, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » C'est Dieu qui parle, là. Hein, il te dit, ma sœur, tu vas être ma fille. Hein? Alors, tu peux sortir d'ici puis marcher la tête haute parce que tu es la fille de Dieu. Puis un jour, ça va se réaliser, le petit grain là qui va sortir dans quelque chose d'extraordinaire. Et mon frère, hein, tu as une valeur. Comme tu es le Fils de Dieu, on peut-tu saisir ce matin cette vérité-là, puis sortir d'ici avec, pas la tête enflée, mais vraiment cette nouvelle identité-là qu'on a en Dieu, c'est quelque chose. On va voir ça de nos yeux. Alors, on peut dire que c'est un bonheur total, parfait. Il n'y aura plus de mort, hein? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Et dans ces premières choses, il y a les lâches, les incrédules, les abominables. Tous les gens malfaisants sur terre et vont être disparaître. La malédiction de Genèse 3, hein? La terre a été maudite et l'être humain est tombé sous l'emprise... La domination du diable, tout ça va être renversé par une bénédiction totale. Alors, la première image du tabernacle, c'est présence de Dieu, bonheur total. Hein? On le retient? On fixe, on détourne nos yeux de ce qu'on vit peut-être présentement qui est difficile. Et lorsqu'on tourne vers Dieu les regards, on peut goûter par la foi ce bonheur-là, cette présence-là de Dieu, mais là, ça va être totalement dans la présence de Dieu. Bientôt, nous allons entrer dans la présence de Dieu sans notre corps. Hein? Lorsqu'on meurt, notre âme s'en va régner avec Christ, mais sans le corps. C'est pas la destination finale. On va attendre, on va être dans une période d'attente avec Dieu. Mais le jour vient où on va, si on est mort, on va revenir avec lui. Et puis là, il va y avoir cette nouvelle création, cette résurrection dans un corps nouveau dans lequel on va vivre pour l'éternité. La première chose, la deuxième. Alors, deuxième image, hein? C'est l'image d'une cité. On a vu tantôt. Ça nous est représenté comme une cité. Alors, ça évoque quoi, une cité, d'après ce qu'on a là-dessus? Pouvez-vous...
Qu'est-ce que ça représente?
Organisé, ouais. Oui. Valentine? Oui. Ah, c'est juste si je meurs aujourd'hui, je m'en vais directement avec Jésus. Hein? Mon âme. Alors, mon corps va dans la terre ou va disparaître, mais mon âme s'en va régner avec Christ durant cette période-là où on va attendre la fin du monde et il va y avoir une résurrection. Alors, ceux qui sont morts en Christ vont revenir avec Jésus-Christ, vont être transformés en cours de route. Mais ceux qui seront sur terre vont être transformés immédiatement dans cette résurrection-là. Ouais. C'est ça, on est en transit. C'est, autrement dit, on pourrait dire la période intermédiaire, lorsque les théologiens vont appeler la période intermédiaire, c'est pas la période finale. C'est pas fini lorsque je meurs. Ça va être fini lorsqu'on va... Le but de Dieu, c'est la résurrection. C'est la nouvelle terre, c'est ce nouveau ciel-là. Alors, une chose remarquable, à la fin du verset 10, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Pour moi, ça veut dire, ce n'est pas une cité faite de mains d'hommes. Ce n'est pas le résultat de nos efforts. Cette cité-là, c'est pas quelque chose qu'on va avoir construit nous autres. Hein? Pas comme New York ou Babylone. Et là, je fais pas de lien entre les deux, là, mais, hein? Ça sera, cette cité-là, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? C'est Dieu qui construit cette cité-là. Elle est d'origine divine, elle vient du ciel. C'est un don, c'est une grâce. Et, l'idée des une grande et haute muraille là, hein? La muraille a 144 coudées, 65 mètres, soit de haut, ils savent pas si c'est de haut ou de large. Alors ça c'est 220 pieds pour les vieux là, hein? Alors un mur infranchissable. Peut-être les murs les plus larges, peut-être avaient 10 pieds là, 3 mètres, quelque chose comme ça. Mais 65 mètres, un mur infranchissable, ça veut dire la sécurité parfaite à l'intérieur de la cité. 12 anges aux 12 portes, n'est-ce pas? Aucune possibilité que le péché entre dans cette enceinte-là, réapparaisse. Il n'y a rien d'impur qui va apparaître à jamais. Dimension universelle. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Aux 4 coins de la terre. Les portes vont accueillir tous les saints, tous les élus des 4 coins de la terre. Un peu comme actuellement l'église de l'Oasis. Hein? On va former un seul peuple, une seule nation, de toutes les couleurs, de toutes les langues. Donc, la cité, c'est ça. C'est-tu là qui dit, ah oui, la 12 000 stades. Mesure la ville, un cube, de 2200 km de long, 2200 km de large. C'est quoi ça, 2200 km, David? Un Bessic? La moitié du Canada? Canada, 6000 kilomètres? 7000? Le tiers, hein? Imaginez, là, Canada, c'est grand. Alors, le tiers du Canada en longueur, le tiers du Canada en largeur et en hauteur, un immense cube égal. Et ça rappelle le Saint des Saints dans l'Ancien Testament, qui était un cube aussi. Alors, dans le domaine de l'imagination de Dieu, là. Mais qu'est-ce que ça dit, ce cube-là? Un lieu très saint avec de la place en masse pour tout le monde, n'est-ce pas? il va y avoir de la place en masse pour tout le monde dans le lieu très saint, dans l'intimité de Dieu. On va être dans l'intimité de Dieu. Ça va être immense, mais on va tous pouvoir le toucher probablement, le voir de nos yeux. Et il parle de... OK, c'est suivant. La cité avait la gloire de Dieu, des pierres très précieuses, et il y a les différentes pierres, des matériaux, ce qu'il y avait de plus précieux sur la terre, d'une valeur inestimable, hein? Ce qu'il y avait de plus riche. Alors, cette cité-là va être composée, imaginez juste si j'avais des diamants dans ma main ce matin, où j'avais des choses extraordinaires. Mais là, ça va être surdimensionné. Cette cité-là est représentée comme avec des objets d'une immense valeur. On va être dans la gloire, on va être dans l'admiration, on va être dans l'étonnement. Je manque de mots pour décrire ce que va être la vie. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être devant un coucher de soleil, vous marchez sur le bord de la mer? Il y a un magnifique coucher de soleil, même ici, il y a des paysages fantastiques. Wow, l'admiration qu'on peut devant la nature. Mais imaginez, on va être dans la présence de Dieu. Et ça, sans fin. Pavé d'or, un or transparent. C'est quelque chose qui une pureté impeccable. Hein? Alors. Qu'est-ce que ça représente, OK, ça c'est la gloire, hein? On va y apporter la gloire des nations. Et ça représente quoi? Totale sécurité, gloire parfaite. Troisième image. Un jardin. Hein? La première, c'était le tabernacle. La deuxième, la ville, la cité. Et la troisième, un jardin. Un jardin où il y a de l'eau. Hein? Tout ce qui est nécessaire pour la vie de ce nouveau corps. On peut juste le représenter comme notre corps actuel, cette vie-là. Alors, il va y avoir de l'eau en abondance. L'eau, à cette époque-là, les villes se bâtissaient à côté d'un cours d'eau ou d'une source d'eau, et ça parlait de l'abondance de la vie. Hein? Pas d'eau, tu meurs. Et est-ce qu'il va y avoir de l'eau, là? Ça va être un fleuve d'eau vive, un fleuve de vie qui va couler. La source va être en Dieu et l'agneau. Ensuite, la nourriture. Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il y a de l'eau, il y a de la nourriture avec des arbres qui produisent 12 fois par, une fois par mois. Tu vas dans ton jardin, puis tu as des fruits nouveaux qui sont là. Ça parle de quoi ça? Abondance, hein? Abondance, un surplus de wow. Et les feuilles qui apportent, là, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de mal possible. Hein? Ça va être la guérison totale. Dieu a tout prévu. Il va pourvoir aux besoins de notre nouveau corps ressuscité. Mais aussi de notre esprit, hein? Ça va être la vie parfaite de l'esprit. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de malheur. Il n'y a plus de chute possible. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus rien d'autre. Le repos, la paix de l'âme totale. On va être dans l'admiration. On va être dans la louange pour l'éternité. branché en direct sur Dieu. Alors, vie parfaite en abondance. Et je vous résume un petit peu, vous relirez les chapitres 20, 21 de l'Apocalypse en images. Se représenter la vie avec Dieu en images. Alors, la vie parfaite en abondance, comme on vient de le voir, totale sécurité, gloire parfaite, et présence de Dieu, le bonheur total. On va faire un petit exercice ensemble. J'ai pris dans le Nouveau Testament toutes les promesses.
J'espère qu'il y en a pour tout le monde. Toutes les promesses.
Fait qu'il y en a une pour vous en particulier. De l'héritage à venir ou de la vie qui s'en vient avec Dieu.
Alors, on va prendre quelques secondes pour le méditer, et ensuite on va se lever pour le partager. OK?
Alors, on médite chacun pour soi. C'est une promesse qui est faite pour vous personnellement. Non. Peut-être les couples pourraient en donner. Est-ce qu'il y en a qui en manquent? Levez la main ceux qui n'en ont pas. OK. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est on ferme nos yeux, puis il y en a une personne qui va ouvrir ses yeux, évidemment, puis va lire avec conviction. Vraiment, ça a été touché par le verset, et on va lire avec conviction, on va faire comme une déclaration de foi, voici ce qui m'attend, voici ce qui nous attend, voici la promesse de Dieu, ce que Dieu va accomplir pour moi et pour nous. D'accord? Sur l'arbre qui donne 12 fruits une fois par mois, ouais. Mais ça parle de, on manquera de rien là, hein. Si j'avais ça dans ma cour, on oui, ça parle qu'il y aura plus de maladie, il y aura plus de péché, donc il y aura plus de maladie non plus. Et c'est des images, hein, qui parlent de. Faut plus s'arrêter sur l'image que ça projette, comme l'abondance, la sécurité, la guérison, ces choses-là. OK? Alors, on ferme nos yeux, puis perdons pas trop de temps entre les versets, parce qu'on a déjà avancé dans le temps. Mais vraiment, si ça vous a touché, vous levez, vous parlez fort, déclarez avec foi, voici ce que je crois. Voici la promesse de Dieu. On y va? Oui, Père Céleste, Seigneur Jésus, Esprit Saint, bientôt, Seigneur, on pourra goûter à cette vie éternelle avec toi, ce bonheur parfait, cette protection, cette vie parfaite en toi. Et en attendant, Seigneur, on a besoin de fixer nos regards sur toi, sur les choses éternelles et non sur les choses terrestres. Père, aide-nous cette semaine à vraiment saisir ces vérités-là et que ça transforme notre quotidien, notre temps, Seigneur, sur terre, à plus grande gloire. Amen.